Et voilà, Ondes Noires, deuxième partie, suite et fin. Donc, nous avons parlé avec Ingrid Astier dans la première partie d'émission d'un très beau roman, très gros roman, mais passionnant, qui s'appelle Haute Voltige, qui est paru à la Série Noire chez Gallimard. Et dans quelques instants, nous espérons que Franz Bartelt nous rejoindra pour parler de son dernier roman qui s'appelle Hôtel du Grand Cerf aux éditions du Seuil. Ce roman, avant d'en parler avec Franz, je voudrais juste l'introduire par quelques lignes. Parce que ça se passe dans un village très très particulier. On va parler de deux personnages, excepté Léontine et Thérèse Landroit, on en reparlera avec l'auteur. L'hôtel du Grand Cerf, les habitants de Reny avaient résisté aux tentations de la fortune facile. En près d'un demi-siècle, rien n'avait changé. Vu de cette hauteur, ils l'avaient toujours connu. Le village apparaissait à Jeff Rousselet comme ils l'avaient toujours connu. Et les habitants n'avaient guère plus évolué que leurs pierres, leurs vilains pavés, et leur toit d'ardoise. Franz Bartelt, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre afin d'évoquer ce petit bijou de roman noir qui est ce dernier roman, donc Hôtel du Grand Cerf, qui vient de paraître dans la collection Cadre Noir aux éditions du Seuil. Deux mots de présentation, vous écrivez je crois depuis les années 80 et depuis les Ardennes où vous résidez, vous nous livrez depuis ces années-là des romans noirs mais aussi des nouvelles, des poésies, des pièces de théâtre. Ici, nous sommes complètement dans le roman noir, même s'il est empreint de beaucoup de poésie souvent. Parler uniquement de l'histoire serait très réducteur, mais il faut quand même qu'on donne un petit peu l'argument. Donc, je vous laisse peut-être présenter Nicolas Tech. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette petite ville de Reny ?
Vous pouvez le présenter, parce que moi, je ne suis pas très doué pour les présentations. Je ne vais pas le savoir vivre.
Bon, alors, Nicolas Tech, c'est donc un journaliste.
Oui, c'est pas un journaliste, en fait, c'est un type qui travaille, qui est ami avec un producteur de cinéma, et donc qui fait des petits boulots.
Alors, il vient faire un petit boulot à Reny, c'est-à-dire d'enquêter sur une ancienne star de cinéma, qui est morte dans des conditions mystérieuses. Vous êtes d'accord ?
Elle est morte dans sa baignoire, noyée dans sa baignoire, mais on ne sait pas si elle est morte, si quelqu'un l'a aidée à se noyer, ou si elle s'est noyée parce qu'elle était ivre.
Et coïncidence, dans ce petit village, évidemment le pouvoir de l'écrivain est toujours infini, au moment où le journaliste débarque, un vieux douanier, assez salaud d'ailleurs, il a été jusqu'à dénoncer une partie de sa famille, il espionne tout le monde depuis très longtemps, il cherche l'apocalypse dans ce village, il est retrouvé assassiné. Et c'est, je crois, une des premières entrées de ce roman, c'est-à-dire l'occasion pour vous de faire sourdre les vieilles histoires et les rancœurs. Reny, c'est vraiment le petit village, c'est vraiment le personnage principal de ce roman ?
Oui et non, parce que au départ, ce que je voulais, moi, c'était, j'avais lu tout un tas de romans, vous savez, très, très actuels, avec plein de psychopathes, avec une violence...
ce qu'on appelle le thriller.
Oui, par exemple. Et donc, j'ai eu une espèce de nostalgie, enfin, le mot est grand, mais une nostalgie des lectures que j'avais quand j'étais enfant. Et quand j'étais jeune, j'ai appris à lire, ma mère lisait un roman policier par jour. Et donc, j'ai appris à lire, je suis rentré à l'école très tard, j'ai appris à lire dans les romans policiers. Enfin, les romans policiers de cette époque-là... Bon, c'est pas très connu maintenant, enfin, il y avait les romans d'une collection qui s'appelait La Chouette, il y avait Le Masque.
Vous avez dû vous régaler avec les enquêtes des Sœurs Baudin ?
Oui, et j'adorais ça.
Ah, c'est très, très chouette.
Ça me faisait vraiment rêver, quoi. Puis c'était à mon niveau. Et puis après, évidemment, j'ai lu d'autres choses, mais j'ai toujours gardé une certaine tendresse ou affection pour ces espèces de romans où il y a une histoire, quoi. On ne sait pas exactement où on va, mais on sait qu'on va y arriver.
Il y a des histoires, si je peux me permettre.
Comment ?
Il y a des histoires. Parce que vous faites un travail d'entomologiste, en fait, avec ses habitants. Avec, par exemple, Thérèse et Léontine. Léontine, la maman, et Thérèse, propriétaire de l'hôtel du Grand Cerf. Alors, vous parliez des romans de votre enfance. Je pense que le décor planté dans l'hôtel du Grand Cerf, ça doit correspondre à peu près à un hôtel décoré comme dans votre enfance, non ?
Non, là, plutôt comme dans mon âge adulte, quoi. Plus tard, quoi. Vous
Mais dans des Ardennes très reculées, alors, les Ardennes belges reculées.
Oui, enfin, dans le fin fond des Ardennes belges, quoi.
Voilà.
Et donc, vous savez, avec des bois de fer partout, avec les porte-clés des chambres sont taillées dans les bois de fer. Il y a du bois, des poutres.
Il y a aussi des papiers peints assez croquignolesques, en général.
Aussi, oui.
Et vous décrivez, alors vous allez nous présenter petit à petit les gens de Reny. Et vous dites d'eux, les gens de Reny ont toujours su tenir leur langue. Ils se détestent, mais n'iraient jamais dénoncer leur pire ennemi à la police. Au contraire, ils choisiraient plutôt de commettre un faux témoignage pour le soustraire à l'action d'une justice dont ils pensaient qu'elle ne les concernait pas, lointaine qu'elle était et rendue par des fonctionnaires qui ne savaient rien des affaires humaines. Au milieu, donc, de ce crime et de ce mystère qui est la mort de cette ancienne star, vous faites débarquer un flic au nom improbable, Vertigo Culbutus.
Culbertus.
Pardon, Culbertus, effectivement. Culbertus. Un flic à la fois obèse et baroque.
Méthodes même franchement grotesque.
Aux méthodes peu conventionnelles. Comment ce personnage a-t-il pris vie dans ce petit village ? Comment il est arrivé ?
Mais là, il devrait pas être là pour faire l'enquête, mais il arrive parce que toutes les polices sont bloquées pour une série d'attentats. Donc il y a des attentats, il y a des grèves, etc. Donc c'est le dernier flic disponible, donc on l'emmène. Il a 13 jours de la retraite ou à 14 jours de sa retraite. Ça ne l'amuse pas du tout.
Non, ça n'amuse pas du tout. Ça n'amuse pas du tout non plus les gens qui l'interrogent. Ses manières de faire sont...
Vertigo aussi, parce qu'il y a plein de trucs comme ça dans le roman. Il s'appelle Vertigo à cause d'Hitchcock.
Oui, vous venez de me piquer une question. C'est pas gentil, Monsieur Bartelt.
Ah bon ?
On allait parler des références, parce que Léontine, dans sa chaise roulante, en haut d'une mezzanine, ça nous rappelle aussi d'autres choses, quand même.
Ben oui, bien sûr, oui.
Voilà, donc on va essayer d'en parler. Donc Vertigo, vous dites de lui, vous avez employé le mot grotesque, à travers le grotesque, elle percevait quelque chose de subtil, une logique tortueuse, un genre d'inspiration. Il n'y avait pas d'autre mot. Donc c'est quelqu'un qui, au départ, paraît très bizarre de prime abord, mais qui va développer quand même une subtilité qui va finir, bien évidemment, on ne racontera pas la fin, mais petit à petit par dénouer les fils de ces histoires très complexes.
Oui, oui, c'est parce que c'est un type qui réfléchit, un peu comme Hercule Poirot, enfin...
On voit un peu ça.
Oui, enfin, il y en a d'autres encore, parce que j'étais dans les romans que j'aimais à l'époque, enfin, quand j'avais, en dehors de Simenon, que j'ai découvert quand j'avais 17-18 ans, mais il y avait des auteurs comme qu'on ne connaît plus beaucoup maintenant, mais que j'aimais vraiment bien, qui s'appelaient comme, vous savez, Pierre Véry.
Bien sûr.
Pour moi, c'était presque un dieu, quoi. J'adorais ses histoires. Il y avait aussi un autre écrivain, lui qui était d'origine belge, qui s'appelait Stanislas André Simante.
Bien sûr, oui.
Qui a fait je me souviens plus très bien de tous ses romans. Mais...
C'est un écrivain prolixe, il a produit beaucoup.
Il en a fait beaucoup. Il avait fait un bouquin que j'aimais bien, que j'ai lu à cette époque-là. Je crois que c'était dans la collection du Masque. Qui s'appelait l'impasse du boiteux ou l'impasse des boiteux.
J'avoue ça dépasse mes connaissances, là.
Ah oui, mais c'était un bouquin incroyable parce que c'était l'histoire d'un type qui était malade, etc. Et les autres, et puis il en voulait, il était le plus jeune de la bande, quoi. Et il en voulait à ses copains parce qu'il allait mourir avant. Il trouvait que c'était injuste de mourir plus jeune que ses copains, donc il les tue. Et le détective, à la fin, dit, enfin, l'interroge et lui dit comme ça, ben oui, on ne pouvait pas me soupçonner parce qu'on ne peut pas tuer pour ça, quoi. Et j'avais trouvé ça génial.
Une autre façon de raconter les dix petits nègres.
Oui.
Aussi. Oui, il y a énormément de références aux romans noirs et aux romans policiers. Effectivement, il y a les interrogatoires. On ne peut pas penser, on ne va pas dévoiler la fin, bien évidemment, mais vous prenez une fin totalement à la Agatha Christie, avec les personnages, les témoins et les suspects qui sont réunis dans une pièce. Et puis, vous tordez les codes, le code de ce type quand même d'interrogatoire, vous les positionnez dans une façon très grotesque aussi. Donc à chaque fois, vous vous rendez hommage, mais c'est par le petit bout de la lorgnette quand même.
Ben oui, parce que j'avais fait de différence entre le comme lecteur et aussi comme auteur, j'avais fait de différence entre le roman, enfin ce qu'on appelle le roman, et puis le roman policier. Pour moi, c'est la même chose. J'ai autant de plaisir dans l'un et dans l'autre. Et la plupart des romans, des autres romans que j'ai faits, sont aussi des romans, des genres de romans policiers parfois. Le Fémur de Rimbaud, c'est un polar. Le Grand Bercail, c'est un polar exactement.
Chaos de famille.
Comment ?
Chaos de famille.
Chaos de famille aussi, enfin c'est à la limite du polar, quoi.
Roman noir, plus.
C'est un roman noir.
Voilà, c'est un roman noir. Et justement, je vais évoquer le recueil de nouvelles précédent qui était paru chez Gallimard. Et vous semblez bien quand même aimer donc mettre vos personnages dans des situations infernales, comme dans cette nouvelle, donc Le Bon Chien. Quand même, le type qui recueille ce chien qui ne reconnaît que le nom Heil Hitler, c'est un petit peu embêtant quand même. Et dans l'hôtel du Grand Cerf, il y en a plein comme ça, que vous mettez dans des situations plus qu'inconfortables.
Ben, il y a plein de... J'ai mis dedans... Il y a beaucoup de choses autobiographiques. Par exemple, toutes les villes sont des villes où j'ai pas fait que passer, quoi. Il y a le camion part de Stettin. Mm. Et mon père était allemand, il est né à Stettin à cette époque-là. Stettin, c'était en Allemagne. Il y a Hambourg où je suis allé, il y a toutes sortes. Charleroi, évidemment, Luxembourg, Maastricht. Tout ça, c'est noté. Il y a guère que la ville de Charleville qui est nommée l'Archeville,
oui,
comme dans
l'Archeville.
Le roman. Mais je la nomme toujours comme ça, quoi. Comme ça, ma foi. Quand je dis du mal des gens, on ne peut pas me dire que c'est intentionnel.
À peine, oui, c'est vrai. À peine. Mais dans les hommages, aussi bien au film noir très hitchcockien et puis à ses romans des années 60-70, il y a aussi une très belle galerie de personnages secondaires. Et à chaque fois, vous attachez à les décrire et aller jusqu'au bout de leur personnage, à vraiment s'arrêter vis-à-vis de chacun d'eux. C'est important aussi dans un roman comme ça ?
Ah, je pense, oui. Je pense que de toute façon, l'histoire ne peut être tenue que par des personnages. Et là, comme c'est au niveau d'un village, même les personnages qui sont très accessoires, tous les personnages importants sont repris à la fin. Donc
oui.
Là, c'est tous les personnages du roman. Mais il y en a d'autres, comme le délégué syndical qui boit du thé, ou tous ces gens-là. Je trouvais que c'était des personnalités intéressantes, quoi.
Ah et oui.
Comme il peut avoir des rapports avec les personnages principaux, c'est normal de le développer un peu, quoi.
Donc ils vont petit à petit faire revenir quelques mémoires anciennes. Ça c'est donc vous dites que tous ces lieux vous les avez connus. C'est quelque chose et on l'a déjà vu aussi dans d'autres romans. Ces histoires qui font que il y a des racines très très profondes et que pour que ça revienne à la surface, il faut vraiment qu'il y ait des drames et même une collection de meurtres pour que on arrive à dévider le fil de ces mémoires anciennes.
Oui, et puis surtout, c'est-à-dire que tout le monde connaît la vérité, mais ne connaît qu'une partie de la vérité, quoi. Et c'est en rassemblant tous les points de vue et tous les souvenirs, enfin, des uns et des autres, qu'on peut arriver.
Oui, on va aller chercher une bonne sœur à la fin qui va déterrer des papiers très particuliers, donc qui va avoir aussi elle aussi un bout de la vérité. Et en fait, on dirait un petit peu, et ça aussi, c'est je trouve une façon très hitchcockienne de raconter une histoire. On a l'impression que vous avez au départ une peinture qui est un peu sous forme de miroir et que vous brisez le miroir. Et qu'ensuite, vous vous amusez avec brio et avec élégance de nous narrer les petits bouts de miroir dans le désordre et de temps en temps de nous éblouir un peu pour qu'on ne comprenne pas tout à fait vraiment.
Non, si, quand même, j'essaye toujours de... Il n'y a pas de fausse piste, par exemple, dans mes romans. Je ne trahis jamais le lecteur. C'est-à-dire que tout fait partie de l'histoire et tout, à un moment donné... C'était un peu la complication de ce genre de roman où il y a plusieurs histoires qui doivent se converger, quoi.
Mm.
Et...
Oui. Oui, parce qu'il y a toujours donc, le passé faut qui se télescope cash, avec la, le maintenant, ce qui est le dernier été du XXe siècle.
C'est ça, c'est-à-dire que je voulais liquider tout ce que j'avais connu, appris, su, etc., au XXe siècle.
À l'aube du XXe siècle.
Plutôt au crépuscule.
Oui, effectivement. La lumière est, est plutôt très tamisée, voire crépusculaire, effectivement.
Mais même, par exemple, toute l'histoire du chromo, la scène, je l'ai ici, quoi. C'est, j'ai vu ça sous les yeux pendant toute mon enfance.
Mais ce tableau qui va permettre de dévider
un truc imprimé, quoi. C'est ce qu'on appelait à l'époque un chromo.
Un chromo.
Et donc il existe, hein, il est là chez moi, je sais pas trop où, mais il est là, je l'ai gardé précieusement.
Bah, continue à le garder.
Ça m'a fait rêver pendant quand j'étais.
Et inspiré. Les objets, je me souviens d'avoir beaucoup discuté avec un autre écrivain, Patrick Péchereau, qui disait que lui, les objets, peut-être des fois plus que les personnages, lui inspiraient des histoires. C'est un peu votre cas ou.
Là, dans ce cas précis, oui.
Dans ce cas précis,
mais je ne l'ai pas intégré. C'est-à-dire que le chromo est arrivé bien avant le roman, quoi. Et après, l'histoire s'est faite à cause des personnages, parce que, en général, je construis toujours les. Enfin, je ne les construis pas, hein, parce que c'est une espèce d'improvisation qui est un peu maîtrisée, mais c'est quand même très improvisé. Moi, je ne fais pas de plan, je fais pas de. Je n'ai pas d'arrière-pensée, quoi. Mais je sais que ça va tenir.
Que les fils vont finir par créer.
Mais ça, je le sais dès le départ, quoi. Mais je ne sais pas exactement comment. Je ne sais pas comment m'y prendre. Il faut que je le voie écrit pour me rendre compte de la route à suivre, quoi.
C'est un petit peu la question d'ailleurs que je voulais vous poser tout à l'heure à propos de Vertigo, c'est-à-dire que vous créez ce personnage grotesque, et il y a des moments, on dirait qu'il vous échappe un peu et qu'il arrive à faire des choses improbables presque contre la volonté de votre plume, de votre esprit.
Oh ben, à peu près tout ce que fait Vertigo est dans mes autres romans. Hein. Ben, il classe par exemple les gens, les suspects, enfin, ou les témoins par ordre alphabétique. J'ai pris ça dans le costume. Enfin, j'ai voulu mélanger les deux genres, quoi, les romans et les polars.
Oui, mais enfin, moi je me permets de faire une remarque, c'est-à-dire vous faites deux genres, moi j'en fais qu'un, je pense qu'il y a des bons romans, c'est tout.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous.
Voilà, donc nous sommes en train de parler d'un très bon roman. Qui m'a vraiment beaucoup plu. Et tous ces personnages, au départ, encore une fois, on parlait de les mettre dans des situations un petit peu improbables, de les déstabiliser. C'est normal pour écrire une histoire, c'est quand même plus. C'est un petit peu plus tenable. Mais l'idée, c'est que quand même, il y a une très très grande tendresse qui sort de cette ironie, de ce décalage que vous mettez toujours dans cette narration. On sent quand même que vous les aimez beaucoup, ces gens-là, et les gens en général.
Oui, je les aime beaucoup, hein, ils travaillent pour moi.
Ah, c'est pratique. J'irai pas jusqu'à citer certains mots.
Ils m'apportent beaucoup de choses. Enfin, bon, je vais pas leur taper dessus. Hein. Donc, j'ai une certaine gratitude, même pour les pires d'entre eux.
Oui, parce qu'il y a quand même. On est quand même dans le genre du roman policier, donc du roman noir. Et il y a quand même le personnage. D'ailleurs, vous l'assassinez tout de suite, Jeff Rousselet. C'est quand même pas une personne qu'on a envie de croiser, ni d'en faire un copain, quoi.
Oui, mais après, on se rend compte que finalement, il n'était pas si méchant que ça, qu'il n'avait pas l'intention vraiment de passer à l'acte. Enfin, on ne sait pas, quoi.
On ne sait pas. Et justement, on saura en lisant le livre.
Comment?
Parce que, Franz, je suis obligée de vous interrompre parce que c'est bientôt la fin de notre émission. Donc, je vais vous remercier infiniment.
Oh, mais de rien.
Et puis, reciter le titre, hein, « Hôtel du Grand Cerf hein, », paru aux éditions du Seuil, dans la collection Cadre Noir, une couverture superbe. Merci beaucoup, Franz Bartelt. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de notre émission, donc on va vous souhaiter un bon roman avec 1, 2, 3, et on vous retrouve pour l'ultime émission de la saison. Ça y est, c'est déjà presque fini, on est bientôt en vacances. Au revoir.